Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes.
Rendez-vous en Alsace, chez Guillaume, où je me suis rendue en novembre 2022. Si je vous dis Triskel, barbe rouge, ça vous parle? Avant de rencontrer Guillaume, j'aurais ouvert de grands yeux sans comprendre. Producteur de lait et de volaille, c'est à sa culture de houblon que nous nous sommes principalement intéressés lors de ce petit déjeuner. Guillaume est un agriculteur dans le nord du Bas-Rhin, et sa ferme est située en plein cœur du village qu'il a vu grandir. Il n'a jamais aimé l'école, mais il a toujours su qu'il voulait être agriculteur. Et il a même été jusqu'au Québec pour se perfectionner dans sa gestion technique de son élevage. Si aujourd'hui il est un agriculteur débordé mais heureux, il a connu des épisodes plus compliqués qui l'ont poussé à diversifier sa production. Dans son village aux maisons colorées, sous le soleil timide de novembre, nous avons parlé terroir, bière et liane. Allez, on essaie ses bottes ! Bonjour Guillaume !
Bonjour.
Merci de me recevoir chez toi, à l'autre bout de la France, pour moi du coup. Je voulais d'abord que tu commences par nous dire qui tu es.
Moi je suis Guillaume Fuchs, je suis installé depuis 2011, je suis sur une exploitation familiale. Il y a eu toujours des vaches laitières et du houblon depuis trois générations. Mm-hmm. Et alors c'est un peu dans le sang quoi, on est baigné là-dedans depuis tout petit, alors il le faut quoi.
Tu dirais que tu es quel agriculteur ?
Un agriculteur passionné et fou du travail.
Ouais. Question rituelle, parce que c'est le titre du podcast. Comment elles sont tes bottes ?
Remplies.
De quoi, du coup ?
Rempli de travail, rempli et débordé d'administration, de travail dans la ferme, voilà, tout le temps quelque chose à faire, on n'a jamais fini.
On va repartir un peu au début de ton histoire. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance déjà? Où est-ce qu'elle s'est passée? C'était quoi tes jeux? Où tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait?
Ouais, où j'ai grandi, c'est pas ici, hein, c'est au milieu du corps de fer, moi, c'est ici, c'est la maison là. Je
pense. Alors comment se prononce ton village? Parce que moi je veux pas faire des...
Olumène.
Ok, voilà, c'est pas ce que je dis moi. Ok. Donc tu as grandi dans ce village que j'aurais pas la prétention de reciter.
Ouais, j'ai grandi dans Olumène, tout à fait, depuis 4 ans. Tout au début, quand je suis né à Mingersheim. Enfin, sur Olagno, je suis né et j'ai habité pendant chez ma mère. Mes parents sont toujours ensemble, mais oui. On a habité chez ma grand-mère. Et après, on a construit sur Olagno et depuis, je suis sur Olagno. J'étais à la maternelle à Olagno.
D'accord, ça fait toute ton enfance.
J'ai fait toute mon enfance ici et je préfère rester à la ferme qu'à l'école.
Ça, c'est, d'accord. Ça fait pas très loin.
Non, ça fait pas très loin, mais je vais même pas aller à l'école.
Ok. Tu as des frères et sœurs?
Oui, j'ai deux frères.
D'accord.
Plus jeunes que moi.
Ok, d'accord. Donc, j'étais l'aîné. Et à quoi vous jouiez quand vous étiez petit?
Au tracteur.
D'accord. Ouais. Pourquoi je pose la question? Ok. Du coup, tu n'aimes pas l'école, malgré tout, il faut y aller.
Oui, malgré tout, il faut y aller.
Et quand tu arrives à l'adolescence, au moment où l'école devient, où il faut choisir un peu vers quoi on veut se diriger, comment ça se passe pour toi?
Ouais, mais là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser, hein. C'est lycée agricole, BEP, c'est encore l'époque du BEP et des
parcours. D'accord.
Hein. Je fais 4 années, lycée agricole, et là-bas, c'est très bien passé. J'étais au collège un peu dans le privé, là, ça c'était un peu plus dur. Mm-hmm. Mais après, c'était la porte ouverte au lycée agricole.
Il est où le lycée agricole par rapport à ici?
Par rapport à ici, il est au sud du département, il est à Auganet.
D'accord.
C'est sud de Strasbourg.
En Strasbourg, ouais.
En Strasbourg, c'est à peu près une soixantaine de kilomètres.
Donc, du coup, t'étais interne.
Internat.
Ouais, ouais, donc c'est évidemment avec toutes les bêtises d'internat dans le lycée agricole.
C'est le top, quoi. Là-bas, à l'époque, tu disais vivement qu'on soit à la maison, et maintenant, ça fait 10 ans, plus que 10 ans que je suis à la maison. Je me dis, si seulement je peux faire une année d'internat au Verdet, ce serait pas mal.
D'accord.
Ce serait de belles vacances.
Du coup, tu fais un bac pro. C'est quoi la spécialité de ton bac pro?
Animal.
Animal, d'accord. Tout de suite, ouais. T'es parti sur de l'élevage.
Oui, sur de l'élevage. On avait l'élevage à la maison. C'était un peu ma passion aussi.
Ok.
Ça branchait.
Tu as toujours su que tu voulais être agriculteur ou est-ce que quand même à des moments tu t'es interrogé et tu t'es dit peut-être que je pourrais faire autre chose ou...
Non, j'ai toujours voulu ça.
Ouais, d'accord.
J'ai jamais posé d'autres questions. Bon, enfin non, pas du tout. Hein. C'était toujours mon... Non. mon idée, quoi.
C'est chouette. Et tes parents, justement, ils ont réagi comment quand
tu... Ouais, pas de soucis, là. Ils étaient contents et voilà. Enfin, ils ont vu que c'était là, quoi. Ouais. C'était mon envie, quoi. Je voulais faire que ça. Dans les vacances, je faisais que ça. J'ai des affaires, mais j'allais pas me promener avec d'autres copains de classe au week-end. Je squattais, voilà. Mais c'était d'abord l'affaire, mais après, les copains, quoi.
D'accord, ok. Et ta maman, elle est sur l'exploitation aussi, elle est agricultrice aussi, d'accord, donc ok, ils sont tous les deux agriculteurs. Donc tu finis ton bac pro, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi?
Après, le bac pro, c'était un peu la période encore des stages 6 mois.
D'accord.
Alors, j'ai fait un stage 6 mois au Canada.
Ah oui, ok.
Ouais, c'était un peu, j'avais un copain de moi qui avait fini l'année d'avant, qui était au Canada. Et déjà avant ça, j'avais toujours voulu voir le Canada.
D'accord.
Et alors,
t'avais voulu voir par rapport à l'agriculture ou parce que tu trouvais que les paysages avaient l'air chouettes et que...
L'ensemble, en fait.
Ouais, les deux.
Mmh. Les deux, ouais, pour voir comment c'est là-bas, les paysages, et après aussi comment l'agriculture québécoise
D'accord, okay.
fonctionne, quoi.
Donc, tu arrives au Canada, tu arrives dans quel type d'exploitation?
Laitière.
Très étonnant.
Laitière ou houblon, houblon, il n'y a pas, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment d'autres endroits. Mais laitière, c'était, voilà, c'était un peu des exploitations laitières à valeur génétique ou autre.
D'accord.
Ils faisaient beaucoup de concours.
D'accord, ok. Oui, ils étaient sur de la sélection, génétique, ok.
Ouais, génétique à fond la caisse et ils faisaient beaucoup de concours. Et, ça, je connaissais pas trop encore. Et,
d'accord.
Je me suis dit,
c'était un race Primochtein?
Il y avait du Primochtein et des raids.
D'accord. Ok.
Et c'était intéressant.
Donc pendant 6 mois, tu fais ton stage, t'apprends, qu'est-ce que tu apprends, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose que tu as appris au Canada que tu as appliqué sur ton exploitation?
Ouais, c'est la patience en fait, c'est pas de stress là-bas. Mmh. Après, ce qu'il y a au Canada, c'est tout, t'as l'impression que tout est tout loin là-bas, tout est tout, enfin, il y a des distances, tu vas pas parcourir beaucoup de kilomètres, mais ils ont tout quand même autour d'eux, faut faire un peu plus de temps. Mmh. Mais t'as une exploitation comme ici. Enfin, ici on a là, c'est un peu spécial parce qu'on est très morceux.
D'accord, ok.
On n'a pas une ferme et après avec 50 hectares autour ou 150 hectares autour, c'est...
Un Aveyron non plus, c'est pas...
Donc c'est, voilà, on a sur l'exploitation, on va dire, j'ai un rayon de 20 km sur 140 hectares.
D'accord.
Alors on se promène pas mal.
Il n'y a jamais eu d'aménagement foncier en Alsace?
Si, il y a, mais on a quand même des communes où on reste quand même parce qu'on ne peut pas ramener tout rapidement chez nous. Okay. Quoi. C'est ça qui est compliqué. Et au Canada, c'était une ferme, voilà, t'as la ferme et t'as les champs autour, hein, t'as toute la structure autour. Les vaches, t'ouvres la porte, ils traversent la route et ils sont dans leur pays.
Ouais.
Et après, tu te rends le soir, tu les recherches avec le quad et tu fais de la traite.
D'accord.
Ça, c'était, voilà, c'était un peu mon dada, ça, c'était un peu l'idée de faire ça. Mais voilà, en Alsace, c'est trop compliqué et les terres sont pas faites pour ça, quoi.
D'accord.
C'est pas valorisant, quoi.
Okay.
C'est valorisant.
D'accord.
Okay. Après, c'était aussi pour un peu suivre la génétique et comment travailler, ils font des embryons et tout ça. Et...
Ah oui, d'accord, donc ils étaient vraiment, très pointus, ouais.
Ils faisaient des ventes d'embryons, hein. Ils étaient
Ah oui, d'accord, en fait, ils faisaient toute la préparation qu'aujourd'hui on peut trouver sur des coopératives d'insémination, faisaient sur l'exploitation.
Ouais, c'est ça, ouais.
Du coup, tu rentres du Canada au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Au bout de 6 mois, je travaille encore un peu à droite à gauche, à la coopérative, sur des exploitations, mais en même temps, je prépare l'installation.
Il y avait la place sur l'exploitation pour que tu t'installes?
Oui.
D'accord.
C'était un peu la période chute libre du houblon.
Oui.
Le recul à fond à la caisse.
Alors ça, tu vas m'expliquer parce que moi, je...
Voilà. C'était un peu la catastrophe là-bas. Tout au départ du projet d'installation, c'était 4 hectares de houblon en plus. Et là, c'était la chute libre, c'était fini. Et d'un autre côté, on avait déjà sur l'exploitation de la volaille de chair.
D'accord.
Et là, le bâtiment, il commençait à être au bout de sa vie. Enfin, voilà, c'était plus faisable, c'était compliqué. Et Cyber, l'abatteur de Argersheim, lui, cherchait des nouveaux bâtiments. Et en fait, comment je me suis greffé là-dessus, quoi.
D'accord. T'as modifié ton projet d'installation pour... ok. D'accord.
En l'espace d'une année, ça a complètement changé, quoi.
D'accord.
Je me suis installé sur l'exploitation primale, sur le Fuchs. Et après, j'ai retrouvé une structure de volailles de chair à part.
Ouais. D'accord, c'est à part, t'es indépendant du reste.
Ouais.
Ok.
Parce qu'en fait, c'était aussi un problème d'administration. Oui. Parce que sinon, j'aurais dû faire une enquête publique et tout le travail là, et ça, je voulais pas faire. Alors, je me suis dit, je mets mon nom.
D'accord.
Ça, je suis plus simple et c'est une structure à part. Ouais.
Ok. Tu t'es installé à 22 ans. Et donc, au moment où tu t'installes, si je résume, il y a un peu de houblon. Enfin, il y a du houblon, il y a des vaches laitières et des poulets de chair.
Oui.
Et aujourd'hui, il y a encore ces trois productions.
Il y a encore ces trois productions.
Quand tu t'installes, t'es associé avec tes deux parents?
Oui.
Ok. Aujourd'hui, c'est toujours
le cas.
Toujours le cas. Ok.
C'est toujours le cas. Et là, l'année prochaine, il y aura le troisième frangin qui va s'installer dessus. Et mon père, il a pris la retraite depuis janvier.
D'accord, d'accord. Vous faites un remplacement par ton frère. Ok. Est-ce que tu te souviens, au moment de l'installation, pour finir sur cette période, le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Moi, on disait toujours, va encore regarder ailleurs. Mm. Fais encore des stages, ou fais encore travail un peu à l'extérieur. Mm. Et c'est vrai que moi, je le dis maintenant aussi aux jeunes d'aujourd'hui, ne vous installez, ne soyez pas trop rapide de vous installer. Regardez encore un peu ce qui se passe chez d'autres gens, ou d'autres secteurs, ou plus loin encore. Regardez, parce que vous avez assez un esprit grand ouvert et pour avoir des idées, quoi.
T'as l'impression que tu t'es installé trop tôt, toi?
Non, je vais pas dire ça, je me suis pas installé trop tôt, mais j'aurais peut-être dû encore un peu faire un petit tour dans la France.
Ouais.
Me prendre encore une année et faire un petit tour.
Un compagnonnage agricole.
Voilà,
quoi.
Voilà,
un
truc comme ça, ouais.
Ouais, ok.
Ça serait peut-être pas si mal, quoi.
Du coup, maintenant, t'es agriculteur et tu cultives du houblon. Alors, les vaches laitières, on en a déjà pas mal parlé dans le podcast, donc on va pas forcément aller dessus, même si je vais quand même te poser quelques questions. Mais comment et à quoi ça sert et comment on cultive du houblon? Qu'est-ce que c'est, le houblon?
Le houblon. Le houblon, en fait, ça fait depuis toujours qu'il y en a en Alsace, déjà.
Ouais.
Et la variété schiste phare.
Oui, que j'arriverai pas à reprononcer. Voilà.
C'est le schiste spalt.
Ok.
Ça, c'est depuis toujours qu'il y a là. Et en fait, compte, ça fait chez nous notre troisième génération de houblon. Le houblon, il se cultive, c'est une culture pérenne.
D'accord.
Tu le plantes une fois et il peut produire jusqu'à 15 ans.
D'accord, ok.
Même 20 ans, ça dépend des variétés. Mais le schiste, 20 ans, il peut donner du houblon. En fait, ça se taille au mois de mars. Après, au mois d'avril, il y a la mise au fil.
Donc, ça, parce que ça ressemble à quoi, du houblon? Moi, j'en ai pas vu.
Le houblon, en fait, c'est dans des parcelles où t'as des grosses structures.
D'accord.
T'as des poteaux.
OK.
De 7 mètres de haut.
Ah oui.
Avec un échafaudage.
D'accord.
Qui sont tous accrochés avec des fils, des câbles.
D'accord.
Des câbles torsés, quoi. Tous les 2 mètres 20, il y a une ligne.
D'accord.
Le houblon. Et après, à mois de mars, tu tailles, parce que quand t'as fini l'année, enfin, pendant l'année, tu le butes. Et à la fin de l'année, tu débutes, et là, t'as juste cette hauteur.
D'accord.
Cette taille,
le vieux bois. 37 cm, quoi.
Ouais, voilà, 30 cm. Ce vieux bois, tu le tailles, tu l'enlèves.
D'accord.
Pour qu'il recommence, on va faire des
et en fait, il monte de 7 mètres en une année?
Oui.
Ah oui, purée.
Le houblon, au mois de fin avril à mai, il peut prendre 20 cm par jour.
Par jour? Mais,
s'il a les conditions, s'il
c'est
a.
C'est incroyable.
S'il a l'humidité et la chaleur.
D'accord.
Et la nuit chaude, pas trop fraîche, il peut prendre 20 cm.
D'accord. Ah oui, c'est impressionnant.
Ça part très, très, très vite.
Donc, ça veut dire que tous les ans, en gros, il monte à 7 mètres, enfin, à peu près à
7
mètres.
Ouais, 7 mètres.
Ouais, d'accord. Et vous le taillez, au mois de mars, paf, il retombe à 30 cm, quoi.
Ouais, il va à zéro.
À zéro,
quand, ouais. Quand le taille, c'est zéro. C'est...
Ah ouais, ok.
T'as juste la souche.
D'accord.
Et celui-là, il repart, il fait plein de tiges.
D'accord.
Il y a une centaine par pied, il y a une centaine de tiges.
D'accord.
Qui repoussent.
Ok.
Et là-dedans, il faut faire le tri.
Ok.
Quand tu mets ton fil tuteur, tu l'accroches en haut et tu l'accroches au pied, dans le sol. Et après, avec des gens, et ces données, on vient et on trie. On en met 4 autour du fil.
Alors, c'est quoi les critères de tri?
Ouais, il n'y a pas, c'est tous les mêmes, grosso modo. Il faut prendre à peu près, l'idéal, ça serait de la même taille.
Oui.
Et, normalement, il devrait être comme ça. Et il faut le tourner, il y a un sens.
D'accord.
Comme le sens d'une aiguille du monde.
Autour du câble.
Autour du fil.
Ouais, ok.
Sinon, il s'enlève.
D'accord.
Sinon,
sinon il s'enlève.
5 minutes après, il s'enlève.
C'est trop rigolo.
Tu reviens, il veut pas.
C'est trop rigolo, ça.
Il faut qu'il tourne toujours. Et là, ouais, au mois d'avril, tu fais, on a un instant, en ce moment, on a 20 hectares de houblon, il nous faut une vingtaine de saisonniers.
Ah ouais, purée, effectivement.
Et on fait
ouais.
ça pendant 15 jours, entre 15 et 20 jours, on fait la mise au fil, quoi.
D'accord.
Alors, on passe une première fois, on nettoie le maximum.
Et alors, quand vous le mettez au fil, donc quand vous le taillez, il est ras du sol, et quand vous le mettez au fil, il fait quoi, 30 cm?
Ouais, il a déjà entre
ouais, 30 okay.
cm.
Ouais, donc vous êtes à ras du sol, en plus, c'est
hyper
fatigant
comme
boulot.
C'est par terre, ouais. C'est un peu contraignant.
Ouais,
c'est pas rigolo, quoi.
Ouais, ouais, non.
Cette période de l'année, c'est un peu mieux.
Ouais, t'as intérêt à te muscler le dos avant, quoi. Ok.
C'est un peu mieux. Et tous les, entre 1m20 et, 1m50 et 1m, il y a un pied.
D'accord. Okay.
Il y en a à peu près 3000 par 20 hectares.
D'accord.
Et voilà, ça, il faut mettre au fil. Et là, on passe 3 et 4 fois. S'il n'y a pas trop de vent, ça va. S'il y a plus de vent.
Donc, tu dis que passer 3-4 fois, c'est-à-dire que tu le fais une fois.
Et puis une après... fois, on fait tout le tour et après on revient.
Ouais, il faut
renettoyer un peu et après on remet autour.
Ouais, parce qu'en fait, lui, il ne va pas pousser le long du fil. Il va.
S'il n'y a pas trop de vent,
ouais.
il suit le fil.
Ah ouais, d'accord.
Mais s'il y a du vent en journée et il prend 10 cm, c'est 10 cm qui vont se décaler.
D'accord.
Il ne pas prendre. Et après, il se rattrape des fois, mais pas tout le
temps. D'accord.
C'est ça qui est le plus long. Il faut être un peu patient, quoi.
Ouais. Ah oui, du coup, toi, si t'as appris la patience au Canada, c'est bien.
Voilà, c'est bien. Faut être un peu patient pour mettre au fil, quoi.
D'accord.
Et surtout, le doigté, il faut pas être trop agressif.
Ben non, parce que tu dois casser les
têtes. Tu peux casser les têtes. Ouais. Si tu casses les têtes, tu recommences.
D'accord.
Ou s'il n'y a plus de rameau qui se fait du sol, il se fait lui-même des tiges, encore une fois, aux feuilles.
D'accord.
Mais là, il faut plus de travail. Il faut casser une feuille, mais casser celle d'en dessous, prendre celle-là et le tourner.
D'accord, ok. Et pendant tout son temps de pousse, vous allez le tourner comme ça?
Non. Il y a un moment où... À un moment donné, il va partir. Ça ira jusqu'à... Ces dernières années, le problème, on a toujours au mois de mai une période du vent.
Mmh.
Et celui-là, il est très contraignant, il est chiant. Il faut qu'on repasse pour le remettre au fil. Et ça, c'est à peu près jusqu'à fin mai, début juin, maximum.
D'accord.
Parce qu'à un moment donné, fin mai, début juin, il est à 3 mètres de haut.
D'accord. Et après, là,
il n'y arrive plus. Là, on passe déjà avec des remorques et c'est plus contraignant. Enfin, c'est plus long.
D'accord.
C'est pas toujours optimum.
Ok. Donc, une fois que tu es à début juin, il pousse. Hein, c'est
il pousse, il pousse. Le 14 juillet, il est en haut.
D'accord.
Après, là-bas, il se fait la floraison, il commence à faire la floraison le 14 juillet. Et après, la récolte se fait dans tout le début septembre, 5, 6.
Et alors, vous ramassez quoi du coup ?
Toute la liane.
Toute la liane.
Toute la liane. On a une remorque avec un bras qui rentre dans la liane, dans la ligne. On coupe à 1 mètre du sol, voilà, grosso modo, à 1 mètre du sol. Et après, elle est tirée, la liane tombe sur la remorque.
D'accord, ok.
Entièrement.
D'accord.
Et après, ça on ramène sur le site de récolte, à la cueilleuse. Et là, on prend liane par liane, on accroche à la machine. Et la machine, elle effeuille tout le pied.
D'accord.
Et elle fait le tri entre les feuilles et les cônes. Et après, c'est séché.
Et c'est sur le site d'une coopérative ou c'est chez vous que vous faites sécher?
Chez nous.
Ouais. D'accord.
Chaque producteur de houblon a son site de récolte, son séchoir et sa cueilleuse.
Ok, donc ça veut dire que toi, un pic de travail, tu as le mois de mars à avril là.
Ouais.
Mais il faut réattacher.
Ouais.
Et c'est début septembre.
Septembre.
Et en fait, les saisonniers, tu les as ponctuellement sur ces trois périodes.
Oui.
Et tu disais, il faut être délicat à tout ça. Vous arrivez à fidéliser des gens qui connaissent ce métier-là ou?
Non.
Non, d'accord, donc il faut réapprendre tous les ans.
Oui.
Ok, c'est comme les vendanges, quoi.
Voilà.
Ok, d'accord.
Non, c'est... En fait, dans le houblon, maintenant, actuellement, on aurait encore la perspective, on pourrait encore en faire un peu plus. Mais en Alsace, ce qui freine les producteurs, c'est la main-d'œuvre. Chaque année, c'est du stress, c'est la dernière minute, c'est à l'arrache totale avec les gens. Mais une semaine avant, tu sais pas combien de gens tu as. Tu sais pas s'ils viennent, après, certaines viennent, ils viennent deux jours, ils repartent, ils veulent pas se produire.
Ouais, c'est comme les vendanges.
Ça devient très compliqué, quoi. Là, on commence tout doucement à avoir une petite filière avec les Marocains, mais c'est pas encore au point, c'est tout le début maintenant, parce qu'au début, on travaillait, jusqu'à présent, on travaillait beaucoup avec des Polonais et des Roumains.
Ouais. Qui venaient du coup exprès pour faire voir un arbre de culture.
Après, ça fait aussi 15 ans qu'on a deux Polonais qui viennent chaque année, qui sont à peu près 6 mois de l'année, cette fois-ci.
D'accord.
Ils sont entièrement autonomes.
Ouais.
Ils viennent pendant grosso modo 4-5 semaines, après ils rentrent de nouveau.
Ouais.
Mais pendant ces 4-5 semaines, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le font. Quoi.
Ouais, c'est bien aussi d'avoir fidélisé des.
Voilà, ceux-là ils sont tellement fidèles et ils te font. Enfin, tu peux leur faire confiance à 100%, ils te font pas de coup de. Voilà, tu leur dis de faire ça et ils le font et ils travaillent. Quoi.
Mmh.
S'il faut bosser 10 heures, ils posent 10 heures pour nous, ou s'il n'y a pas de souci.
Donc, du coup, après le houblon, une fois qu'il est séché, à quoi ça sert?
Il est mis dans des balles de 60 kg compressées. Celui-là, il est ramené à la coopérative à Bonmat. Anciennement, Coboudal, mais c'est comptoir à l'école.
D'accord.
Et celui-là, il est conditionné dans des frigos à 4 degrés. Et après, en fonction des clients, des brasseurs, soit il est en brut comme il est, soit il est en pellet. 80% c'est une pellet. Et après, encore un compressé en huile.
D'accord, ok. Et ça sert pour faire de la bière.
Ça sert à faire pour la bière.
D'accord.
Et ceux-là, les brasseurs, ils mettent ça en fonction des variétés. Maintenant, on a une palette de Coupoudal, elle doit avoir plus d'une vingtaine de variétés.
Moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui faisaient de l'orge brassicole.
Oui.
Les deux, ça se fait en même temps.
Oui.
Enfin, tu sais, toi, comment ça...
Dans les détails, je sais pas exactement.
Moi, je comprends rien. Donc...
Dans les détails, je sais pas.
C'est quoi la complémentarité entre les deux, en fait, c'est ça?
En fait, c'est le houblon, c'est ce qui ramène le goût à la bière.
D'accord.
Ce qui ramène l'amertume et le goût. Maintenant, quand on prend... Est-ce que je pourrais te comparer? Une bière météore ou une Kronenbourg, ça c'est la bière de base, toute simple, quoi. C'est le lichrisse de nous en général. Et une bière un peu plus sucrée, amaratisée, c'est un peu des IPA.
Oui.
Maintenant, il y a la Parame rouge.
Oui.
C'est une variété de houblon, en fait.
D'accord, ok.
C'est celle-là qui ramène.
C'est le houblon qui va faire la différence du goût.
La différence du goût.
D'accord, ok.
Dans une bière, tu peux prendre de l'orge, voilà, ça change aussi un peu.
Ouais.
L'épaisseur, comment dire. L'orge, c'est plus ou moins, la bière, elle est plus amère, pas amère, comment je peux dire ça, léger.
Oui.
Ou,
oui, pâteuse, ouais, grasse, hein, voilà, on dit grasse,
ouais.
Ok, d'accord.
C'est ça qui fait l'orge. Okay. Et le houblon, c'est vraiment le goût
d'accord.
derrière. Quoi.
Ok. Donc, toi, tu fais qu'une variété de houblon. Et de ce que tu me dis, c'est plutôt du houblon qui sert à pour faire des bières basiques. Tu peux
aller... Non, j'en fais plusieurs des variétés.
Ah, d'accord.
C'est trop facile.
D'accord. Donc, il y a la basique dont tu dis, qui est de là depuis longtemps.
C'est vrai qu'il est là depuis toujours.
Que je ne reprononcerai pas, je crois. Mais qui, du coup, elle sert à faire plutôt des bières classiques, type Météor. Voilà, c'est ça. Ok.
Et après, on a tout ce qui est... du bar rouge, la nouvelle variété là, c'est du élixir, qu'est-ce qu'on avait encore, du aramis, du bouclier, du triskel.
C'est génial les noms.
Après, les anciennes variétés qui sont un peu plus européennes, c'est tout ce qui est golding, tradition, Prebes Gold, Nugget.
D'accord, donc en tout, t'as combien de variétés toi sur l'exploitation?
Attends, faut que je recompte.
Non, t'as pas
ça, ça a changé, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ça a changé, on était à 10 variétés. On a baissé à 7 variétés.
D'accord, ok.
Et maintenant, encore en plus de ça, on fait un bon, un essai de blanc variétal que le comptoir fait depuis 2002. On fait des croisements de vins de houblon.
D'accord.
Pour trouver des nouvelles variétés. C'est okay. Comme le aramis, le marron rouge et l'élixir. C'est des croisements avec des anciens houblons et qu'on a réussi à évoluer.
D'accord, ok.
Pour avoir un plus grand panel de différences, enfin de produits. Et là, j'ai une parcelle sur un hectare, j'ai 21 variétés.
Ah oui, d'accord. Mais après, le travail technique reste le même, quelle que soit la variété.
C'est exactement la même chose.
Et par contre, au niveau de la récolte, j'imagine que tu dois séparer tes variétés.
Voilà, c'est un peu plus compliqué là-bas.
C'est ça, ça te fait.
Mais voilà, faut le faire, faut essayer pour évoluer, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et surtout aussi, quand tu fais des croisements houblons, il faut voir la durée de vie du houblon, combien de temps il tient, les rendements, les résistances aux maladies et aux insectes. Tu fais le tri, dans au fur et à mesure, on fait le tri, ouais. Ça, tu peux oublier, au niveau technique, l'itinéraire technique, c'est trop compliqué, ne tient pas le coup.
Il y a qu'en Alsace, enfin, il y a qu'en France, au niveau français, il y a qu'en Alsace qu'on trouve du houblon, ou est-ce qu'il y a d'autres endroits, tu sais?
Non, le houblon, là, maintenant, ça fait, 5 ans que c'est un peu devenu, comment dire ça, maintenant, l'idée de tout le monde de faire du houblon.
Il y en a pas en avant, je crois.
J'avais pas encore entendu, ouais. Mais à Bordeaux, il y en a.
Ouais.
Proche de Lyon.
Au nord de Lyon, peut-être dans les monts de Lyon, ouais.
En Bretagne et dans le nord de la France.
D'accord.
Dans le nord de la France, il y en avait toujours.
Oui, oui, puisqu'ils ont aussi des bières.
Le nord de la France et l'Alsace, c'était principalement où on faisait du houblon. Et maintenant, ça se fait un peu partout. Et après aussi, maintenant, il y a l'engouement du bio.
Toi, t'es en bio, quoi?
Non. Okay. Conventionnel. Le bio, c'est un peu, depuis aussi 5 ans, c'est un peu venu en même temps que tous ces néo-houblonniers, qui commencent un peu à faire du houblon bio. Et le houblon bio, c'est quand même très technique.
Ouais. Le houblon tout court, ça a l'air très technique, alors bio, je peux imaginer.
Le bio, il faut être très technique. Il ne faut pas avoir l'idée en tête qu'en bio, tu traites moins qu'en conventionnel.
Tu traites différemment.
C'est le double. Pour moi.
Toi, tu traites beaucoup le houblon, c'est comme la vigne, c'est une production qui se traite beaucoup,
Oui.
En insecticide surtout.
Plutôt en fongicide.
En fongicide pour les champignons.
Tout ce qui est mildiou et oléum.
Ah, d'accord, vous avez le mildiou aussi, comme les patates.
C'est exactement pareil. C'est le mildiou et l'oléum, c'est le principal souci qu'on a.
D'accord.
Tout ce qui est insecticide, c'est vraiment en fonction de la météo.
Ouais.
C'est très aléatoire d'une année à l'autre. D'une année à l'autre, tu fais un insecticide peut-être, ou zéro. Et en milieu, là, tu fais pas mal, quoi.
Ouais, puis en plus, vous avez quand même de la pluie en Alsace.
Ouais, donc, tu peux faire, c'est des fois des périodes de l'année, tous les 15 jours. Hein.
Ouais.
Tu peux faire un passage, en moyenne, 14 passages de pluie.
Et entre les rangées de houblons, il y a aussi du travail du sol qui se fait, comme sur la vigne, pour éviter que justement du désherbage et tout ça, prenne.
En fait, au fur et à mesure que le houblon il pousse, une fois qu'on est passé deux fois avec la mise au fil, on le bute.
D'accord, donc vous faites des petites montagnes autour du pied.
Autour du pied, ouais.
Okay.
Parce que sinon, toute l'année, tout le temps, il fait nouveau ses tiges.
D'accord. Il n'arrête pas. C'est un
bambou,
en fait.
Et alors, tu le butes, au bout de deux fois, c'est bon, il arrête.
Et ça, vous avez une machine pour le faire?
Ça, c'est entièrement organisé, ouais. Tu butes au bout de deux fois, et en même temps, tu butes aussi pour les mauvaises herbes. Ça te permet de pas traiter. Et après, au mois de juste là, tu fais à peu près jusqu'à, tu essaies de pousser jusqu'à début juillet. Et après, tu fais encore pour des passages de vibro entre les lignes, pour encore maîtriser les adventices. Et après, là, on commence tout doucement, un peu jusqu'à présent, on faisait rien, mais là, on commence à mettre des engrais vers dedans.
D'accord.
Mois d'août, juillet, en fonction de la météo, des conditions, ouais. Si ça pousse, on met quelque chose. Sinon,
vous avez eu de la sécheresse cet été, vous aussi, j'imagine. Mais comment il a réagi le houblon, du coup?
Le houblon, en fait, on était très surpris.
Ouais.
On pensait pas avoir, on pensait avoir une année normale entre 30 et 40% de rendement en moins. En fait, on a fait un petit 10, 15. Ça dépend des variétés.
Ah oui, variétés vous avez testé finalement les variétés.
Des variétés qui ont bien tenu le coup, qui ont fait devenir plus normal. D'autres variétés qui ont donné 30% en moins.
D'accord.
Mais voilà, c'était très étonnant, on pensait pas. On n'y croyait pas. Quoi. Après, par rapport à l'année dernière où on a eu tout le temps de la pluie, régulièrement et pas trop chaud, c'était le top. Là, on fait une année record. Mais cette année, c'était encore, on était très content encore du résultat. Hein.
Ouais.
Après, le houblon, faut savoir qu'il reste, s'il reste 5, 7, 8 ans. S'il y a 7 mètres de liane, il y a aussi 7 mètres de racines en bas, quoi. Celui-là, il va loin, quoi.
Ouais.
Et le houblon, c'est juste le problème, c'est les températures. C'est au-dessus de 30 degrés, il n'aime pas.
Oui, puis ça arrive quand même
à l'âge qui passe très chaud, quoi. 35, ça arrive même pas du tout. Là, il végète. Pendant vraiment la période de juillet jusqu'à mi-août, il a plus beaucoup évolué.
Ouais.
Il a végété. Il a même perdu certaines fonctions des variétés. Il a perdu ses feuilles.
Il faut se concentrer sur la
tige. Sur les tiges et sur les fleurs. Quoi.
Ouais,
il tenait les fleurs, mais les feuilles, tu voyais, à un moment donné, normalement, dans du stris, t'es debout, tu vois pas les lignes à travers. Ça doit être rempli de végétation. Très feuillu. Et là, tu voyais 5, 6 lignes parce que il y avait plus rien. Les 3 premiers mètres de hauteur, il y avait vraiment plus rien. C'était vraiment en haut.
D'accord. Ça faisait comme une canopée, quoi.
Ouais. Et là, on s'est dit, ça va donner.
Tu as dit tout à l'heure que quand tu t'es installé, justement, c'était la crise au niveau du houblon et que du coup, tu t'étais installé sur un autre projet. Aujourd'hui, du coup, ça se porte comment le marché du houblon et comment. Est-ce que ça va mieux?
Non, en fait, compte, jusqu'en 2000, je sais plus les dates par cœur, les années par cœur, mais jusqu'en 2010, on va dire, Kobuda était à part. C'était la coopérative des houblonniers. Et on avait un principal acheteur des États-Unis.
D'accord.
80% du houblon alsacien allait aux États-Unis.
C'est étonnant?
C'est incroyable. Incroyable. Et du jour au lendemain, lui s'est fait racheter, on avait 600 hectares, entre 600 et 700 hectares de houblon en Alsace. On est descendu à un moment donné à proche de 300, 350.
Ah oui, d'accord.
Il y a beaucoup qui ont arrêté, ou voilà, on a divisé les surfaces par deux, pratiquement par structure. Et on a eu beaucoup du mal à vendre, à l'hectare c'était très compliqué. Ceux qui avaient l'investissement, c'était très
Mais ça veut dire que les producteurs de bière, alors il y a des producteurs de bière alsaciens, je me trompe pas.
Oui.
Ça veut dire qu'eux achetaient du houblon qui n'était pas alsacien?
Pas forcément.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Beaucoup allemands ou
Ah
non, les Allemands c'est les premiers, hein.
Ah bon?
Ah, les Allemands c'est notre plus grosse concurrence, mais c'est l'Allemagne a en surface à 60% de la surface mondiale. L'Allemagne et les États-Unis maintenant pas grand chose, ils sont pareils quoi, en surface quoi. En fin de compte, alors Kobudal s'est rattaché au comptoir agricole qui avait pas mal d'adresses aussi parce qu'à travers les céréales.
Ouais. Du coup, c'était deux copes, il y avait la petite houblonnière et celle qui était plus généraliste qui a repris la houblonnière.
Là-dessus, ils ont pas mal communiqué, ils ont fait pas mal de démarches avec les brasseries locales. Et maintenant, on est à. Genre, avant, on avait une centaine de clients, maintenant, on a plus de 2000 clients.
D'accord.
Dans tout le monde.
D'accord.
On va de partout, on va en Asie, on va en Japon.
D'accord. Et oui, il y a de la bière en Asie.
Il y en a partout, quoi. On arrive à maintenant écouler un peu partout. Donc, quoi.
D'accord.
Et en fin de compte, l'avantage que nous, on fait plus des variétés amertume. Et en Allemagne, il faut plus des variétés à haute valeur alpha.
D'accord.
Et c'est la différence, en fait, qu'on a.
C'est ok, c'est votre votre
c'est votre petite plus-value, quoi. Ouais. C'est le territoire qui fait aussi ça. Le houblon, il faut aussi être très, très conscient, un Stris. On fera pas la même chose en Bretagne.
C'est comme le vin, en fait.
Oui, c'est comme le vin.
Ouais.
Niveau goût, niveau
ressenti,
ce sera pas du tout la même chose. Enfin, pareil, on va pas faire la même chose.
C'est rigolo, c'est très similaire avec la vigne, en fait.
Oui, oui, ça ressemble très proche à la vigne. Après, ça se travaille dans l'alcool.
C'est vraiment
le terroir qui fait la différence. Quoi. Après, on est arrivé à monter au fur et à mesure la pente. Et aussi, maintenant, il y a eu un pic de microbrasseries qui s'est développé.
Bien sûr.
Partout, hein.
Ah oui, partout.
Et c'est les microbrasseries qui consomment quand même plus de houblon au litre que les grosses brasseries.
D'accord.
On va dire le double.
Ah oui, carrément.
Après, les quantités exactes, je sais plus.
Oui, oui, non, mais d'accord.
C'est quelques grammes par hectolitre dans les brasseries nationales, grandes, Meteor ou Kronenbourg. Et dans les microbrasseries, c'est au kilo. C'est, voilà,
tu oui, parce que tout ça, ils cherchent plus d'amertume aussi. Voilà, ils sont bien, ils sont plus travaillés. On va dézoomer un peu du houblon. Donc, tu as quand même des vaches laitières. Tu en as combien, du coup, sur l'exploitation?
Là, j'ai une cinquantaine de vaches laitières.
D'accord. Donc, tu traites, tu vends ta production à qui?
À une coopérative aussi, Alsace Lait.
D'accord, ok.
Et là aussi, depuis 2016, on est en retraite. Là, ça, c'était une bonne idée.
Ouais. Ok. Ouais, tu sais à quoi il sert ton lait?
Yaourt. Okay. Beaucoup de yaourt, fromage blanc.
Alors, question rituelle chez les éleveurs laitiers. Tes vaches, elles ont des noms?
Oui.
Laquelle est la plus sympa?
Luna.
Tu me l'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, vous avez pas mal de matériel en Cuma. Pour le petit garçon qui jouait au tracteur et qui adorait ça, comment il le vit?
Très bien. Très bien, ça c'est mon plus, plus mon plaisir. Enfin, moi j'aime bien travailler, j'aime pas rester tout seul. J'aime bien travailler à plusieurs et travailler ensemble pour que chacun soit gagnant et que tu restes pas tout seul dans la maison à travailler de tous côtés, quoi. Au moins, t'es plus efficace, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent et c'est plus marrant, on va dire.
Ouais.
C'est un peu compliqué des fois, c'est sûr, c'est une organisation différente, il faut pas...
C'est sur un grand territoire, là, votre Cuma, du coup?
On est sur 6 villages, c'est-à-dire grosso modo aussi environ 10 kilomètres.
Ah oui.
10 kilomètres, et c'est tous des structures il y a juste un éleveur de porc, et le reste, c'est des vaches laitières, grosso modo. Et principalement que des vaches laitières, ils ont pas d'autres cultures comme nous.
D'accord. C'est spécial. Ouais, vous êtes un peu spécial par rapport aux autres.
Et tout ce qui est maintenant matériel, au moins, c'est de l'organisation. Faut pas se lever le matin, tu veux faire ça, quoi. Comme hier, on s'en a décidé qu'on voulait prendre du fumier. On a WhatsApp, ça c'est le top, ça.
Ouais.
On écrit sur WhatsApp, les pondeurs fumés dispo. Ah non, il est que dispo demain soir.
Ben,
voilà, c'est comme ça, t'attendras. Je D'accord. me suis aussi pas prévu à l'avance, mais ça presse pas. Mais il faut un peu d'organisation. Il faut pas dire tous les matins tu décides ce que tu veux faire aujourd'hui. Quoi.
Et justement, donc tu l'as dit, tu travailles à plusieurs avec tes parents, ton petit frère qui va, enfin ton deuxième petit frère qui va rentrer. Tu es en méthanisation, donc tu travailles aussi en commun avec d'autres agriculteurs. Au sein de la structure, enfin de l'exploitation, comment vous faites déjà pour vous organiser? Vous faites des réunions? Vous croisez, vous dites au fait, je vais faire ça, comment ça se passe?
Ça dépend des périodes de l'année, un peu, quoi. Ouais. C'est le stress, un peu, c'est un peu, on répartit un peu. Et mon père, c'était toujours un peu plus houblon.
Ouais.
Alors lui, je le laisse un peu faire, et alors on se dit, il faudrait bientôt nous retraiter, ou il faudrait faire ça, qui fait quoi, et voilà, on se dit, et il fait. Et après, moi, je fais un peu tout ce qui est, je nourris les animaux, je fais un peu de suivi de troupeau. Et là, tout doucement, mon frère commence un peu à reprendre la main sur le houblon et un peu tout. Après, on est pas mal autonome. Enfin, on peut faire un peu de tout. Tout le monde n'est pas spécialisé dans chaque chose. S'il y en a un qui doit partir ou qui part en vacances ou X ou Y, on peut le faire, on sait le faire.
Ouais.
Mais chacun a quand même, pour les périodes compliquées, au mois d'avril, au mois de mars, mon père et ma mère, ils gèrent entièrement les saisonniers et les travaux qu'il y a à faire dans le houblon. Avec mon frère, encore maintenant, tout doucement. Et moi, j'ai un peu tout ce qui est culture, maïs, céréales.
Et oui, tout ce qu'il faut pour les vaches aussi, tout le reste de l'année.
En même temps, il y a de l'herbe à faire, il y a toujours tout en même temps.
C'est
un peu d'organisation, quoi. C'est ça qui est un peu pratique, ou ce qui m'intéresse toujours, c'est un travail en commun. Dis, écoute, tu viens une journée chez moi, tu m'aides là, et moi, je t'aide.
Vous avez des systèmes d'entraide comme ça?
Oui.
En Aveyron. On a des banques d'entraide ou des mutuelles coup dur, c'est des trucs qui sont très organisés avec des points et tout ça.
C'est que entre nous.
D'accord,
entre la cumin, on dit, écoute, tu viens avec cette matière-là, tu me roules une journée, moi je te roulerai plus tard une journée, genre comme ça.
Ouais, bien sûr.
Pour les ensilages.
Ouais, vous avez des groupes d'ensilage.
Des groupes d'ensilage, alors on fait, écoute, lui il roule une fois chez moi, moi je roule chez lui.
À midi, on mange bien.
Voilà. Tous les soirs, plutôt. On travaille bien à midi, et après,
D'accord.
On fait la fête le soir.
Je vais te poser quatre petites questions où il faut répondre un peu rapidement. Quelle est la dernière recherche Google que tu as faite?
Matériel agricole.
Ouais, c'était quoi comme matériel?
Poulet houblon.
Ouais,
c'était pour une arracheuse à houblon.
Le dernier film que tu as aimé?
Oui, le film, je regarde pas beaucoup.
Ou la série, même.
La série, Lucifer.
D'accord. Le dernier truc que tu as acheté pour ton métier?
Un repousse fourrage.
D'accord, c'est pour les vaches. C'est le truc quand elle
le robot, c'est un Juno, on appelle ça, qui repousse l'alimentation.
Ouais. Quand elles l'ont un peu poussé avec leur nez, ça permet de le remettre.
Ouais.
La dernière musique que tu as fredonnée?
Comme j'ai un enfant, Oui. Voilà, c'est un peu les enfants, les musiques.
Ouais, les trucs qui restent bien dans la tête.
Dans la tête, là.
Et après,
une souris verte, des trucs comme ça.
Ouais, ouais. Tu te retrouves dans la, dans ton boulot et d'un coup, tu t'entends chanter. Je vois à peu près. Est-ce que t'es fier aujourd'hui?
Oui. Mais de oui, quoi, je suis content, ouais. Bah, tout ce que j'ai déjà construit aussi, hein, tout ce que j'ai déjà fait, hein, en l'espace de 10 ans. J'ai sorti une exploitation, voilà, du poulet de chair, j'ai construit ma maison. Voilà, le corps de ferme aussi.
C'est étonnant, en fait, alors juste parce que du coup, les gens ne voient pas. Mais en fait, le corps de ferme, il est dans le village, quoi. Il est vraiment, sur la rue du principal. Donc ça, c'est assez étonnant. Village,
ouais. Ouais. Mais là, on est vraiment, coincé comme ça. On est au taquet, de ce taquet.
Et les, justement, enfin, on entend souvent, quand même, des gens qui disent que c'est un peu pénible d'être dans des cœurs de village. Toi, tes voisins, tout ça, ça se passe bien? Vous avez pas de difficultés par rapport aux vaches?
Ouais, c'était pas, il y a des périodes toujours avec les voisins. Il y a des années où ça se passe bien, des années où ça se passe mieux. Et après, c'est un peu, faut faire l'effort de chacun de son côté, quoi. Genre, les livraisons de camions, je leur fais en sorte toujours qu'ils viennent pas le matin à 5h ou à 6h, qu'ils viennent après 8h aujourd'hui. Je leur dis bien, venez après 8h, j'ai des voisins. Au moment où la coopérative est venue le matin à 4h chercher le lien, j'ai fait, oh non, les gars, là, ça va pas.
Oui, parce qu'en plus, ils passent devant chez toi.
Oui,
ils passent
devant chez moi, les voisins, les personnes un peu plus âgées autour de chez moi. Alors, moins de bruit, ils entendent tout. Alors, j'ai dit, non, ça va pas le faire, ça.
D'accord.
Et après, tout ce qui est maintenant un peu épandage de fumier, l'idée, il faut faire en sorte que tu ne vas pas commencer le vendredi soir à 5h.
Oui, tu
fais en sorte, du coup, c'est un début de semaine, tu ne viens pas le week-end, quoi. Voilà, autrement, si tu respectes comme ça, ça se passe bien, ouais, je t'en prie, pas de soucis.
C'est vrai qu'on l'a pas fait, mais est-ce que tu pourrais décrire un peu, parce que là, j'ai dit que c'était au cœur du village, mais l'environnement de ton exploitation, à quoi ça ressemble, enfin...
De toute façon, c'est Olungen, rue principale, milieu du village, entouré de maisons. Il y a un bâtiment de vaches laitières. À 50 mètres, c'est la première maison. 50 mètres, on va dire, il y a la chambre, hein, des premiers voisins. Les veaux aussi de l'autre côté, il y a aussi à peu près 50 mètres, il y a aussi un veau voisin qui habite. Ouais. Et après, le village, en fait, il fait un peu une forme de lune. Et au milieu, j'ai mon bâtiment et un pré. Ouais. Et là, j'ai les génisses qui peuvent sortir, qui peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Et ça, ça plaît quand même au village.
Ouais, bah oui. C'est quand même
ça
joli.
Un peu, voilà, joli et nature, quoi.
Ouais.
Et ça marche encore bien.
Et alors, juste moi, pour compléter, les maisons, elles sont de toutes les couleurs, un peu de colombage, et aujourd'hui, c'était très vert, mais je doute que cet été, ça devait être un peu plus sec.
C'est un peu plus sec.
Et du coup, ton bâtiment en houblon, il est à l'extérieur?
Mon bâtiment en houblon, en fait, il est côté de ma mère.
D'accord, ok.
C'est à 1005, c'est à 7 km d'ici.
D'accord.
Et c'est pas, on n'est pas dans le village, mais vraiment juste à l'extérieur, juste au bord du village, quoi. C'est encore dans le village. Et c'était, en fait, l'exploitation de ma mère avait aussi déjà des vaches laitières, il y a 40 ans, même. Ils ont arrêté et on a récupéré les bâtiments et on a pu aménager ça pour faire... Il y avait du tabac aussi,
ouais.
On a aménagé tout ça pour mettre du
tabac. Est-ce que tu as eu un prof ou un formateur qui t'a marqué?
Oui, toujours en...
Et si je vais le voir et que je lui demande de me parler de toi, tu crois qu'il me dirait quoi?
Distrait.
Ouais.
Un peu distrait.
D'accord. Et tu l'as aussi au boulot ou pas?
Non, au boulot, mais sérieux. Après, avec trois frangins, on travaille ensemble.
Ton troisième frère aussi travaille avec vous?
En fait, ce que j'ai pas dit encore, c'est qu'on a encore une méthanisation.
Ah oui, d'accord, juste.
Mais on a une méthanisation, pas tout seul, avec trois autres exploitations.
Oui.
Et mon deuxième frangin, il travaille chez Lévis maintenant, je pense.
Oui, donc Lévis, c'est les robots de traite.
Les robots de traite,
ouais, c'est ça.
Là, il a arrêté depuis l'année dernière, il est salarié entièrement de la méta.
D'accord.
Il gère, enfin, c'est lui qui gère, grosso modo, le site de la méta. Et alors, forcément, on est obligé de travailler ensemble pour les récoltes, pour les chantiers. Et même sur la ferme, ils nous donnent toujours un coup de main.
Ouais, mais jamais très loin, quoi.
Jamais très loin.
Ok. La méthanisation, vous y mettez... Il y a une partie des déchets du houblon qui peut y aller?
Non, jusqu'à présent, on le fait pas parce que, en fait, dans le houblon, comme on traite du soufre pour l'odium, ça, c'est un peu compliqué
c'est pas bon
à gérer
pour
la méta.
Ouais.
Et après, encore, le fil tuteur, c'est de la ferraille.
Ouais.
C'est des fils...
Et vous coupez les fils.
En même temps, comme il y a tout le pied qui va avec dans la machine.
Ouais.
Et après, c'est broyé sur 2 cm. Et t'as un fil de 0,2 mm. Et ça, c'est pas top, ça, pour la méta. Ça va se déposer dans les cuves et pour les pompes. Après, on va mettre ça dans les prairies.
Ouais.
Si on rechoppe ça pour les animaux.
Oui, non,
on sait pas comment ça évolue, tout ça. Quoi. Jusqu'à présent, on en a pas besoin. Vous faites
avec les effluents d'élevage.
Voilà,
ouais, ok.
Je fais principalement, enfin, la méta, c'est 80% des plans des gens.
Tu as un enfant, du coup, ou des enfants?
Un enfant.
4 mois. D'accord, oui. Donc,
tout frais.
Si un jour il te dit qu'il veut être agriculteur, tu lui diras quoi?
Vas-y.
Ouais.
Pas de problème, continue.
Tu lui diras d'aller voir ailleurs quand même avant de
s'installer. Ouais, je dirais d'aller ne sois pas trop pressé de rester à la maison, voir un peu autre chose, comment c'est fait ailleurs et comment il travaille ou pas. Ne prends pas la tête, c'est la maison.
D'accord. Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes aujourd'hui, même si elles sont bien pleines?
Bien, bien, non, on sent bien, on est à l'école là, ça va quand même, on a une période difficile là, mais quand même, maintenant ici, pour moi, ces dernières années, ça va quand même mieux.
Merci Guillaume.
Merci.
On peut être sûr de sa vocation, mais comprendre qu'il faut prendre son temps avant de s'y plonger pleinement. On peut avoir une ferme cernée de maisons et faire attention aux heures de travaux bruyants pour respecter ses voisins. On peut être débordé, mais prendre le temps de ne pas être trop agressif avec les plantes que l'on cultive. Enfin, on peut avoir été au Canada en stage, mais regretter de ne pas avoir fait un tour de France agricole avant de s'installer. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt dans de nouvelles bottes.